6 heures.
Dans les Hauts-de-France, il existe plus de 70 librairies indépendantes. Contrairement à ce que l'on peut penser, Internet et les réseaux sociaux n'ont pas entamé le goût des jeunes et des moins jeunes pour la lecture. On en a même qui n'ont pas eu peur d'ouvrir une librairie en 2025. À Crépy-en-Valois, dans le sud de l'Oise, c'est le cas de Laura Martin-Roland qui a décidé de reprendre la librairie fermée depuis 2 ans. Elle nous explique pourquoi elle s'est engagée dans cette aventure.
Eh bien, tout simplement parce que l'année dernière, je finissais mon master et je me demandais bien qu'est-ce que j'allais faire, je pense, comme beaucoup de personnes quand elles finissent leurs études. Et moi, je travaillais à l'origine dans l'édition. Et comme j'ai toujours aimé lire, c'était un peu un rêve d'enfant. Et il y a eu cette occasion qui s'est présentée où j'ai appris qu'il y avait une librairie à l'origine à Crépy-en-Valois qui avait fermé et qui recherchait quelqu'un pour reprendre le projet. Et je me suis dit, ah, ce serait pas mal. Et puis j'ai creusé un petit peu, j'ai visité le loco et j'ai eu un vrai coup de cœur pour le lieu. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Et donc je me suis lancée.
Et comment vous avez su qu'il y avait une librairie à réouvrir ici ?
Alors je l'ai su tout bêtement sur LinkedIn. Un jour, un 1er mai, où j'accompagnais mon compagnon dans son sport. Et je pense que je devais vraiment m'ennuyer parce que pour que, que j'arrive sur LinkedIn, c'est que vraiment... Voilà, il fallait que je sois passée sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. J'ai atterri sur LinkedIn et je vois un post de l'association des libraires d'en haut qui relayait cette information.
Vous êtes du secteur de Crépy ou pas ?
Du tout, je pense que ça s'entend. J'ai un petit accent du Sud. Mais je suis montée à Paris pour faire mes études et puis j'ai rencontré mon compagnon qui, lui, est de Crépy-en-Valois. Et c'est grâce à lui que j'ai connu la ville.
Alors, on peut parler un peu du projet. Comment ça a été monté, ce projet ?
Alors, tout a commencé l'année dernière, quand j'ai vu cette annonce. J'ai visité les locaux et puis c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et donc, j'ai commencé avec l'étude de marché. Je me suis fait accompagner d'un expert comptable pour pouvoir présenter un dossier pour avoir des prêts bancaires, pour pouvoir effectuer les travaux. On a imaginé l'aménagement, la communication, quel livre... il fallait avoir dans la librairie parce qu'il y a 10 000 livres à la librairie, donc les choisir un par un, ça prenait pas mal de temps, mais c'était une très chouette partie. Et puis après, une fois que c'était lancé, voilà, la machine était en route.
Vous avez eu un accompagnement de la communauté de communes du Pays de Valois ?
Oui, ils m'ont aidé à présenter et à former un dossier pour le présenter devant une commission, la commission Oise Initiative, qui m'a permis d'obtenir un prêt d'honneur à taux zéro. Voilà, pour aider à la trésorerie.
C'est quoi un prêt d'honneur ?
Un prêt d'honneur, c'est on prête de l'argent et à taux zéro, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt comparé, par exemple, à des banques qui nous prêtent avec des intérêts.
Donc là, vous êtes locataire ?
Oui, je suis locataire.
Et donc les propriétaires, vous les avez rencontrés ?
Oui, tout à fait. Ils sont adorables. Et d'ailleurs, pour anecdote, la sœur des propriétaires est Bernadette Després qui a dessiné les Tom Tom et Nana.
Eux, ils ont rénové le bâtiment, on avait vu ça, tous les Crépinois, enfin les gens du coin, avaient vu que le bâtiment était rénové, c'est un bâtiment de 1900 à peu près. Ils cherchaient vraiment quelqu'un pour réouvrir une librairie ou pas ?
Oui, tout à fait, c'était leur souhait et vraiment ça leur tenait à cœur que vu que c'était une librairie qui existe, je crois, depuis déjà plus de 120 ans, ça aurait été dommage que ce soit un autre commerce et ça leur tenait vraiment à cœur que ça reste une librairie.
Vous aimez la lecture ?
Ah oui, c'est toute ma vie, j'y passe mes journées, mes soirs aussi, très tard parfois. C'est vraiment quelque chose qui m'habite et que j'ai depuis toute petite, voilà, je lis.
C'est en plus de votre formation, parce que vous n'avez pas de formation littéraire ?
Alors oui et non, j'ai fait l'école du Louvre, donc c'était plutôt culture, histoire de l'art, archéologie. Et puis en master, je me suis spécialisée en communication et management culturel. Et donc là, j'ai eu l'occasion de faire mon alternance aux éditions Gallimard. Donc j'étais déjà un pied dans l'édition.
Donc ici, vous n'êtes pas tout seul ? Vous êtes accompagnée par quelqu'un ?
Oui, tout à fait. Alors je suis celle qui porte le projet, mais je suis accompagnée par Laurette Mercier, qui est une libraire avec moi, qui elle est de formation libraire et qui est une passionnée elle aussi et qui m'accompagne au quotidien.
Et comment on fait pour démarrer une librairie ? Il faut connaître quand même les circuits.
Alors oui, l'avantage, c'est que comme j'ai travaillé en maison d'édition pendant quelques années, je connaissais plutôt bien la chaîne du livre. Je connaissais aussi les acteurs principaux. Donc je savais comment ça fonctionnait et ce qui m'a permis aussi de démarrer une activité de librairie plus sereinement.
La librairie du Valois compte plusieurs milliers de livres. Laura Martin-Roland explique comment s'est fait le choix.
C'est un choix assez compliqué qui prend énormément de temps parce que je les ai choisis un à un. Il y a une partie qui se fait avec pour chaque rayon. Et puis évidemment, il y a une autre partie qui est les nouveautés. Donc ça, c'est les représentants qui passent tous les 2 mois nous présenter les nouveautés des éditeurs. Et puis après, nous, on choisit ou pas de les prendre pour les présenter à la librairie.
Tous les représentants des éditions qui passent vous voir régulièrement?
C'est ça, tout à fait. Donc ça prend pas mal de temps.
Dans les classiques, c'est quoi? C'est les Molière et compagnie?
Alors oui, ça peut être les grands noms de la littérature française, ça peut être des grands noms aussi de la littérature étrangère, puisqu'on a présente, il n'y a pas que des livres écrits en français, à l'origine, disons, il y a des traductions. Et c'est aussi, par exemple, des grands noms, par exemple, en polar, d'avoir Olivier Nourek, Franck Siliez, enfin voilà, il y a des grands noms aussi à avoir, parce que voilà, ça fait partie des auteurs incontournables du rayon.
Puis vous avez quelques perles aussi à côté, à faire découvrir?
C'est ça, on a nos coups de cœur, donc qu'on met en avant aussi avec des petits mots qu'on peut voir sur les livres, sur les réseaux sociaux également. Pour mettre en avant et pour défendre ces livres qui nous ont fait voyager, qui nous ont transportés, parfois fait pleurer, souvent fait rire, qui nous ont touchés.
Maintenant que vous avez ouvert la librairie, est-ce que vous avez le temps de lire?
Eh bien, pas vraiment. Là, on va dire que les 15 premiers jours où vraiment j'étais à fond dans les travaux et dans l'ouverture, j'ai pas ouvert un livre, ce qui m'était pas arrivé, je pense, de toute ma vie. Parce que j'ai toujours lu tous les jours. Et maintenant, j'arrive à reprendre un rythme plus correct de lecture. Mais c'est vrai que les premiers jours, les premières semaines ont été un peu difficiles au niveau de la lecture. Parce qu'un libraire, contrairement au mythe qu'on peut s'en faire, il n'a pas le temps de lire la journée tellement il y a des choses à faire dans le magasin.
Vous lisez combien de livres alors par semaine ?
Par semaine, je ne saurais pas dire. Par an, en moyenne, je suis entre 150 et 200 livres.
Ah oui,
oui, oui. Oui, alors tout confondu, il y a aussi des albums, il y a aussi des BD, des mangas, par exemple, qui se lisent beaucoup plus vite qu'un livre de 600 pages en fantasy.
Est-ce que dans la librairie, vous avez un domaine spécialisé?
Alors, on est dans une librairie généraliste, donc on a vraiment tous les rayons, que ce soit la littérature contemporaine, des polars, de la romance, du pratique, des BD, des mangas, de la jeunesse, des sciences humaines. Il y a vraiment tous les domaines qui sont présentés. Après, évidemment, on a nos goûts personnels, chaque libraire, et donc on a des appétences. Moi, je sais que, évidemment, comme je suis jeune, j'en ai beaucoup lu, j'adore la jeunesse, j'ai aussi des BD, des mangas, mais j'apprécie aussi particulièrement la fantasy, je lis aussi des beaux-arts de par mes études que je connais plutôt bien. Je lis aussi évidemment de la littérature contemporaine. On a toujours des petits rayons privilégiés où on aime bien aller naturellement vers eux.
Vous avez ouvert le 1er avril, c'est pas une blague?
Et non, c'était pas une blague.
Et c'est quoi le retour que vous avez des gens qui viennent?
Déjà, on a été très surpris par le monde. Il y a eu énormément de monde qui sont venus les premiers jours et même depuis l'ouverture. Donc on est très contentes. Et puis d'excellents retours de personnes qui nous disent que c'est magnifique, que voilà, les travaux, ça a vraiment embelli le lieu, que c'est lumineux, qui redécouvrent cet espace qui a changé, même s'il ressemble encore à l'ancien, puisqu'on a gardé les étagères d'avant, qui est daté de l'imprimerie, donc ça date un petit peu, mais qui sont magnifiques. Puis aussi qu'ils étaient contents de retrouver du livre, des livres, l'odeur des livres, de plus avoir à forcément commander sur Amazon ou aller à Compiègne ou à Senlis, qui est quand même plus loin, pour Crépy-en-Valois, et de retrouver une librairie.
On croit que les gens lisent de moins en moins, ce n'est qu'une impression?
Je dirais que c'est en partie vrai, en tout cas pas Crépy. À Crépy, c'est des lecteurs, beaucoup, et même les plus jeunes. Souvent on dit que c'est les plus jeunes qui lisent pas, mais en tout cas à Crépy, ils lisent énormément. Il y a beaucoup de familles qui viennent, donc pour des mamans et des papas, pour des plus jeunes, mais aussi par exemple pour des adultes, pour des enfants, des ados qui viennent, par exemple, comme les collégiens qui, à partir de 16h-16h30, débarquent tous à la librairie pour chercher leur manga, leurs petits romans à lire en ce moment. Et ça fait vraiment plaisir de les voir, notamment au coin lecture, quand ils sont en train de lire.
Alors c'est bien parti. Et le futur de la librairie, c'est quoi?
Le futur, c'est mettre en place des animations. Donc là, il y a 2 dédicaces qui sont prévues. Et puis, il y aura des clubs de lecture, des soirées thématiques, des après-midi jeux, des ateliers d'écriture. Il y a plein de choses de prévues.
Il y a aussi des écrivains locaux. Vous les avez contactés déjà ou pas?
Oui, tout à fait. Il y en a certains aussi qui sont venus. Et c'est avec plaisir, voilà, pour défendre leurs livres, les lire et les mettre en avant, parce que évidemment, c'est très important. Et puis, il y en a pas mal dans la région déjà qui écrivent et qui écrivent bien.
Et pour les auditeurs qui veulent vous retrouver ?
Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, Librairie du Valois.
Dans sa librairie du Valois, Laura Martin-Roland nous dévoilait les coulisses de la réouverture de sa boutique. Un interview de Hervé de Chornia pour RVM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Alors pour moi, une bonne radio, ça serait une radio où il y aurait de la musique, du jazz, de la chanson. Et puis des trucs qui bougent, quoi. Du rock, du rap. Il y a aussi du reggae, un peu de classique, mais je voudrais aussi des informations.
On est bien là, dans une logique impérialiste.
Des opinions.
Moi, je vais te donner mon point de vue.
Des interviews.
Moi, je sais pas, j'habite à pourquoi.
La politique, quoi.
Nous qui sommes le contre-pouvoir.
Que ça déconne, hein.
Elle était violente, cette crise.
Ça, surtout, sans publicité. Et bon, des radios comme ça, ça existe pas. Y en a pas.
Mais t'es con, quoi.
Ce foutu mélange, c'est Radio Campus. Qu'on écoute sur 106,6. Oh merde, t'as marché sur le fil du micro.
T'es des chiens, aujourd'hui c'est dimanche, tu es bien trop loin, mais ça y est, j'ai le matin. La lune t'est fatiguée de m'entendre hurler sur mon toit, sinistré, et les ministres me filent la légion d'honneur de la plus grande souffre-douleur. Et je rêve debout comme un ange, à genoux je supplie l'amour heureux. Et je rêve debout comme une merde, à genoux je supplie. Et je rêve debout.
ministère chargé de protéger. Mais quand l'enfant galère, personne pour l'écouter. Et les droits font roulis-roula, et les droits font roulis-roula. Stop ! Trois pas sans réponse, trois pas sans moyen. Deux pas dans l'urgence, et personne pour agir.
Le 15 mai dernier, le comité des 400 000, l'équivalent du nombre d'enfants placés sous l'aide sociale à l'enfance, a appelé à une manifestation nationale pour dénoncer le manque de moyens des associations de protection de l'enfant. Dans les Hauts-de-France, c'est à Lille que les travailleurs sociaux se sont massés en nombre sur la place de la République. Les revendications du comité sont d'exiger une véritable politique de protection de l'enfance et la défense des droits universels de l'enfant sur tout le territoire. Financées par les départements, les associations ne sont pas traitées sur le même pied d'égalité, comme l'indique Fabienne Lemaire, directrice de la CNAP, la Convention nationale des associations de protection de l'enfant des Hauts-de-France.
La protection de l'enfance, personne n'en parle, ou on n'en parle qu'au travers des catastrophes et des drames qui peuvent arriver dans notre secteur. Et c'était important pour nous d'en parler aussi en termes de... Il y a des réussites dans l'accompagnement des enfants, mais aujourd'hui, on manque cruellement de moyens pour accompagner les enfants correctement, répondre aux enfants et à leurs familles, répondre à leurs besoins d'accompagnement et de faire en sorte qu'on puisse les aider à grandir et à devenir des citoyens qui vont former notre société de demain.
On l'a dit, il y a de plus en plus d'enfants qui ont besoin d'aide, de protection. Quelle est la situation dans les Hauts-de-France ?
Alors dans les Hauts-de-France, alors on est particulièrement touché parce que vous savez que les Hauts-de-France, ce sont des territoires qui sont extrêmement touchés par la précarité. Et donc on a un certain nombre d'enfants qui ont besoin d'être protégés. Et notre difficulté aujourd'hui aussi, c'est que le nombre de travailleurs sociaux qui sortent des écoles aujourd'hui est en diminution. Et en fait, entre le nombre de travailleurs sociaux qui sortent des écoles, qui sont formés, et ceux dont on a besoin pour accompagner les enfants et les familles, on n'en a pas assez. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, y a des enfants qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à mettre en place les mesures qui sont ordonnées par les magistrats ou par le département. Et ce qui manque cruellement, c'est la prévention aussi. C'est faire en sorte que les enfants qui ont besoin d'aide, ils n'arrivent pas en protection de l'enfance et qu'on les aide avant, en fait, pour que, justement, on n'ait pas besoin de la protection de l'enfance et que les problèmes soient résolus bien en amont.
Dans ce territoire des Hauts-de-France, est-ce qu'il y a des inégalités entre les départements ?
Chaque département fait son budget et alloue les moyens pour la protection de l'enfance. Donc tout ça, c'est à la main. Et aujourd'hui, ça crée des inégalités. C'est-à-dire que dans certains départements, ils vont mettre des moyens, par exemple, pour développer des places d'hébergement. D'autres vont en mettre moins. Ou dans l'accompagnement des familles, par exemple, il y a des éducateurs qui accompagnent les familles à domicile. Ils doivent accompagner plus de 35 enfants. Dans d'autres départements, c'est moins de 30. En fait, ça crée des inégalités sur le territoire, dans la réponse aux besoins des enfants et des familles.
Dans votre discours, vous avez parlé de 4 axes de revendications. Quels sont ces 4 axes ?
C'est qu'il n'y ait plus aucune liste d'attente, c'est-à-dire que chaque enfant qui doit bénéficier d'une mesure de protection puisse l'avoir et sans délai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des enfants sur certains territoires qui attendent plusieurs mois avant de pouvoir voir l'éducateur qui a été nommé pour les accompagner. Ou des enfants qui font l'objet d'une mesure de placement et qui n'est pas exécutée parce qu'on ne trouve pas de place dans les structures. On veut aussi qu'il y ait un grand plan autour de l'attractivité des métiers du social pour les éducateurs, de formation, de recrutement, de revalorisation et de considération par rapport à leurs conditions de travail. On veut aussi qu'il y ait des investissements autour de la prévention pour justement faire en sorte qu'on n'arrive pas à des catastrophes avec les enfants et de faire en sorte qu'elles soient accompagnées bien en amont. Et notre dernière revendication, c'est celle pour les jeunes majeurs qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. C'est qu'il n'y ait aucun majeur qui sorte sans solution. Parce qu'on sait que si on les sort sans solution, ce sont des enfants qui vont se retrouver en grande précarité, qui risquent de se retrouver à la rue avec de graves difficultés sociales, d'emploi, psychologiques. Et ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui manque le plus alors actuellement ? Ce sont des volontés, des moyens financiers, des moyens humains ?
Il manque un grand plan pour la protection de l'enfance, presque un plan Marshall pour la protection de l'enfance, de façon à ce que l'ensemble du secteur puisse être porté et qu'au niveau national, l'État fasse en sorte que les départements mettent en place les lois qu'ils ont votées et que ce soit équitable sur l'ensemble du territoire de la France.
C'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit pris en charge par l'État pour qu'il n'y ait plus de disparité entre les départements.
Nous, on ne demande pas la recentralisation de la protection de l'enfance, mais ce qu'on demande, c'est que ça ne peut pas être que l'affaire des départements, ça doit être l'affaire de tout le monde, la protection de l'enfance. Et l'enfant, ça doit aussi, autour de l'accompagnement psychologique, de la pédopsychiatrie, par rapport à l'école, l'enfant doit devenir une cause nationale et faire en sorte que, tout au long de la chaîne, on puisse les accompagner correctement. On a des grandes lois, on a des lois ambitieuses aujourd'hui qui nous disent de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant et d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir mettre en œuvre ces lois correctement.
Est-ce qu'on connaît les chiffres des enfants concernés dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin dans les Hauts-de-France ?
Non, je n'ai pas les chiffres pour les Hauts-de-France parce que ce sont des chiffres... C'est justement la grande misère aussi de la protection de l'enfance, c'est qu'on manque de chiffres et on manque aussi de recherches autour de la protection de l'enfance qui nous permettrait effectivement de nous asseoir sur ces recherches pour développer des réponses innovantes et faire en sorte qu'on puisse avancer dans l'intérêt et faire grandir les enfants dans de bonnes conditions.
Au directeur de l'association La Sauvegarde du Nord, Frédéric Rouvière, nous lui faisions référence à un professeur de médecine, lequel disait récemment qu'en France, on préfère guérir que prévenir.
Mais il a raison, je pense que c'est une réalité, je pense que les moyens sur la prévention, et notamment la prévention auprès des tout-petits, c'est là où il y a un rôle important entre toutes les équipes, alors qu'on voit ici du secteur associatif, mais aussi avec les PMI, les services du département, partout où on peut repérer des enfants qui sont en difficulté, très vite il faut intervenir, parce qu'on sait très bien que des problématiques... qui peuvent être liés effectivement à un moment donné sur des soucis de parentalité, sur des questions de mauvaise approche par les parents, peuvent entraîner les enfants en situation de handicap parce qu'ils vont connaître un trouble du développement, ils vont avoir des problèmes de motricité et tous ces aspects-là vont que ces enfants auront besoin de prendre des mesures beaucoup plus fortes tardivement. Et que je crois que l'enjeu, c'est d'intervenir tôt dans les familles pour aider les familles à s'occuper d'un enfant, le lever, le langer, redonner un cercle, un petit peu d'habitude, de savoir se lever pour aller à l'école, voilà, de vivre sa vie normalement comme tous les enfants. Et je crois que c'est un des enjeux importants, la question de la prévention.
Vous avez beaucoup insisté sur les enfants de 18 ans qui sortent de l'ASE et qui, on sait aujourd'hui qu'un tiers des SDF de moins de 25 ans sortent de l'ASE.
Mais oui, parce qu'ils sortent trop tôt. On demande à ces enfants qui ont connu souvent des parcours... Alors, les enfants dont on parle là, ce sont les enfants qui ont connu une vie en institution, qui ont été placés. Et effectivement, ces enfants, à 18 ans, on leur demande de savoir être autonomes, de savoir s'occuper d'un logement, de savoir s'occuper de leur santé, de pouvoir continuer leur parcours, de gagner des ressources. Mais à quels enfants dans la société aujourd'hui on demande ça? Le nombre de familles peuvent en témoigner. Les enfants à 18 ans ont besoin de rester dans le cocon familial, ils ont encore besoin d'être sécurisés. Et eux, malheureusement, les dispositifs sont brutaux, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent pour eux, ils s'arrêtent pour les mineurs. Non accompagnés, c'est-à-dire que les enfants qui ont connu un parcours de migration, ils arrivent en France à peu près vers 16 ans et demi, 17 ans. On ne peut pas déposer un dossier avant 17 ans et demi pour une régularisation en titre de séjour. Et là où la préfecture met 13 mois à répondre. Donc, à 18 ans, ils sortent sans rien, sans papier. Et donc, c'est l'errance et la rue qui se proposent à eux.
Toutes les associations présentes aujourd'hui dénoncent un manque de moyens. Quelle est votre position ?
Je vais le dire de manière franche, il y a un manque de moyens, inévitablement. Mais en parallèle, on ne peut pas saluer l'effort que font les départements pour davantage se préoccuper de ces questions-là. Mais ce que l'on voit aussi à côté, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de demandes. Voilà. Donc face à une demande qui accroît, effectivement, malgré l'effort de moyens complémentaires, ça ne suffit pas pour répondre aux besoins qui sont aujourd'hui ceux que l'on constate sur le territoire. Donc oui, la revendication première, si on a besoin de plus de moyens, je pense qu'il faut que l'État soutienne les départements, je pense qu'il faut renforcer les actions en matière de placement. À la Sauvegarde du Nord, tous les jours, on refuse des placements d'enfants. Les services du département nous appellent en disant « Est-ce que vous avez une place ?» Mais non, on est tous à saturation. Et donc c'est un vrai sujet aujourd'hui de pouvoir accompagner les enfants qui ont besoin d'être placés, en tout cas d'être sortis même temporairement d'un environnement familial qui serait hostile et violent.
Pour rester dans les Hauts-de-France, est-ce qu'il y a des disparités entre les 5 départements, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, l'Aisne et l'Oise ?
Oui, il y a des disparités dans les départements. Ça ne touche pas de la même façon. On a un département du Nord qui croule sous la demande et qui a fait des efforts mais qui n'arrive pas à faire face. Voilà, et qui du coup a refusé une partie des demandes complémentaires de financement que l'on a pu faire. Le Pas-de-Calais a suivi. Et dans les trois départements Picard, on voit bien qu'il y a plutôt une espèce de non-sujet pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas traiter la question. La demande, elle est pressante, elle est là, mais les départements ne sont pas du tout aux côtés des associations pour faire face aux besoins. Alors, la difficulté, c'est que ça vient emboliser si les associations associations sont défaillantes, ce sont les services du département qui doivent enregistrer et accompagner les demandes aujourd'hui. Et on voit bien que régulièrement, nos collègues sont en arrêt de travail, ils sont en situation de grève, parce qu'effectivement, les demandes sont de plus en plus pressantes et ils n'ont pas de réponse à apporter aux enfants qu'ils ont en face d'eux physiquement dans le bureau. Quand vous avez un enfant dont vous savez qu'il est victime de violence et que derrière, vous n'avez pas les moyens de pouvoir le placer ou le sortir de l'environnement et que la réponse, c'est qu'il doit retourner dans sa famille, c'est compliqué pour un professionnel. Donc oui, on voit bien ça. Voilà.
Cette manifestation a donc réuni de nombreux travailleurs sociaux de la région, soutenus par des juges pour enfants comme Mathieu Boéry, délégué régional du syndicat de la magistrature, lequel nous explique sa présence.
Parce qu'aujourd'hui, on est tous concernés par ce manque de moyens accordés à la protection de l'enfance dans notre pays. Parce que même si ça concerne les conditions de travail des travailleurs sociaux, ça concerne surtout les mineurs, en fait, qu'on est tous ensemble chargés de protéger. Nous, on ordonne des mesures. Si les mesures ne peuvent pas être exécutées par manque de moyens, nos décisions ne servent à rien. Et on est là aujourd'hui pour dénoncer, du coup, avec les travailleurs sociaux, ce manque de moyens accordés à la mission qu'ils doivent exercer dans leur vie de tous les jours.
Alors, où est-ce que le bât blesse ?
Ça se situe à deux endroits. Il y a déjà, au niveau de l'organisation, aujourd'hui, si cette mission elle est laissée au département, c'est quand même aussi à l'État de s'assurer que les départements peuvent faire cette mission dans leur quotidien. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression parfois qu'entre le département et l'État, on se renvoie un peu l'imballe. Il y a un rapport qui a été rendu en avril dernier par le Parlement sur l'état de la situation dans tout le pays, ce qui montre bien qu'il y a un dysfonctionnement national à ce niveau-là.
Alors on parle de 400 000 enfants dans toute la France. Est-ce qu'on connaît exactement la situation dans le Nord ?
Alors dans le Nord, il y a des centaines de mesures de placement qui ne sont pas mises à exécution alors qu'elles ont pourtant déjà été ordonnées par un juge des enfants, ce qui montre bien qu'il y a un problème dans l'application de nos mesures qui sont prises en audience. Et ce problème, effectivement, c'est un problème de moyens financiers. On n'a pas assez de lieux d'accueil. On a des lieux d'accueil qui sont pas... qui ne permettent pas d'accueillir dans des conditions satisfaisantes les enfants qui font l'objet de mesures de placement. On n'a pas assez de travailleurs sociaux. Pourquoi ? Parce que ce métier, aujourd'hui, il n'est pas rendu attractif par les pouvoirs publics. Donc forcément, quand on ne donne pas aux travailleurs sociaux les moyens de faire leur métier correctement, ça ne va pas attirer des gens dans ce métier-là.
Effectivement, le métier de travailleur social n'attire plus, comme le constate également Karine Monnier, directrice générale adjointe de l'association AFEJI de Hauts-de-France.
En fait, c'est que les professionnels aujourd'hui sont insuffisamment valorisés, reconnus, accompagnés, soutenus. Les conditions de travail sont vraiment compliquées et effectivement, ils ont plus peur aujourd'hui de dire « bah non, je pars, je m'en vais et je vais chercher autre chose et je vais faire un autre métier ».
Et pourtant, au départ, c'était une vocation.
Au départ, c'est une vocation, mais il y a une rupture entre les représentations qu'on peut avoir. On n'est pas préparé, en fait, au métier qu'on va exercer. On n'a pas le temps, en fait, de les soutenir aussi et de les accompagner au quotidien.
Qu'est-ce qui les démotive ?
Je pense que c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas une raison, c'est multifactoriel. Et c'est toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, ces métiers sont extrêmement compliqués à tenir dans le temps, dans la durée, avec un engagement, une conviction. Parce que, il faut être un surhomme pour tenir ça. Et avec des salaires qui sont terriblement bas.
Est-ce qu'il y a des conséquences sur l'éducation et sur la protection de ces enfants ?
Il y a des conséquences énormes parce qu'un enfant a besoin d'une permanence du lien. Aujourd'hui, toutes les figures d'attachement de son quotidien vont changer. Tous les deux mois, il va y avoir des nouvelles têtes qui vont arriver, qui vont partir. Et du coup, les enfants, c'est des ruptures de plus, impossibilité de se poser, d'être serein, parce qu'on ne sait pas qui sera là. Et je ne vous parle même pas de l'intérim, où là, c'est un défilé d'inconnus qui ne crée aucun lien avec les enfants au quotidien.
Alors, comment remédier à ces problèmes ?
C'est tout l'enjeu, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est avoir un peu plus de moyens, redonner du temps, avoir des conditions de travail acceptables, revaloriser les salaires. C'est vraiment, là aussi, c'est multifactoriel en termes de levier d'action.
Des moyens d'agir pour la protection des enfants en danger. Voilà ce que réclame l'ensemble des travailleurs sociaux des Hauts-de-France. C'était un reportage de Thierry Tempé pour Radio Plus.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Moi, quand je me dis que je suis large pour faire une demande de bourse ou de logement étudiant. Moi, quand je réalise que je n'ai plus que quelques jours pour faire mon DSE. Vite, je me rends sur messervices.gouv.fr avant le 31 mai.
Et pour savoir si tu es éligible à une bourse ou un logement étudiant et comment remplir ton dossier, il suffit de te rendre sur le site je-demande-ma-bourse.lescrousse.fr. je-demande-ma-bourse.lescrousse.fr.
Ça fait bientôt 5 heures qu'on est là, et y en a encore pour longtemps. Si ça continue à ce train-là, je vais avoir un accident. Le grand barbu à pile noir, qu'arrête pas nous traiter de salaud. T'as l'air de faire dans mon hasard. Je
chez le pruneau. Il veut des pierres et des boulons, des bouteilles vides et des parfums. Et dans le fond de mon pantalon, il y aura sûrement des traces de pain. C'est comme ça, y'a que les feuilles des acacias. S'il y avait eu un magasin, j'aurais acheté du papatrin. Il n'y aurait plus d'affrontement, ni de bagarre avec les flics. Si comme moi les manifestants avaient attrapé la colique.
Mon triste cœur bave à la poupe et pousse un soupir général. Un vent vénéneux y défoule ses petites épines en rafale. Mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur flanqué d'épines sales. Mon cœur le venin en poupe. Son rire hisse drapeau noir. Mon cœur le venin en poupe. Ses dents sont vénéneuses et sales, et câline des cœurs les découpe. Ton cœur flanqué d'épines sales, mon cœur le venin en poupe. Son rire hisse drapeau noir. Balance et tachycarde, mon cœur volé pend la poutre et trace un drôle de cardiogramme qui fait des volutes vers la voûte céleste et des chutes verticales. Mon cœur volé pend la poutre et il s'y balance et tachycarde, mon cœur de pitre se défoule. Il n'y circule qu'alcool métal, mon cœur de pitre se défoule. Dans son costume nicotinal, esquisse pantomime double. Il trouve son geste original, mon cœur de pitrin se les foule. Il n'y circule qu'alcool métal. Bave à la poupe, mon cœur flanqué d'épines sales, mon triste cœur bave à la poupe et pousse un soupir général. Un vent vénéneux y défoule ses petites épines en rafale. Mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur flanqué d'épines sales, mon cœur le venin en poupe. Son rire hisse drapeau noir, mon cœur le venin en poupe. Ses dents sont vénéneuses et sales, les câlines des cœurs les découpe. Mon cœur flanqué d'épines sales, mon cœur le venin en poupe. Il n'y circule qu'alcool métal.
raccorder vos vélos. Avec la compagnie Les Forces Majeures, une tournée symphonique à cyclo itinérante, genre de Paris-Roubaix, et organisée par l'association Musique en Roue Libre du 30 mai au 9 juin 2025, en vue du prochain festival Les Inouïs qui se déroulera à Arras fin août, début septembre. Pour en savoir plus sur cet événement, entretien avec le directeur artistique et de programmation de l'association Musique en Roue Libre. Julien Lahaye, directeur artistique et musical de l'association Musique en Roue Libre, mais aussi du Festival des Inouïs. Salut Julien.
Salut Boris.
On va prendre le vélo, puisqu'il va y avoir du sport bientôt. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu avec la compagnie La Filature, hein, si tu peux nous dire deux mots aussi sur cette compagnie, et une sorte d'étape de Paris-Roubaix, hein,
alors,
c'est ça?
Oui, alors La Filature, il se trouve que, comme tu le sais, hein, La Filature c'est une émanation de Musique en Roue Libre. Hein. On est un collectif de musiciens, on a des spectacles qui tournent. Chaque année, on fait des tournées à bicyclette. Voilà, je cache pas plus longtemps le discours. On va parler du vélo. D'ailleurs, on s'appelle Musique en Roue Libre. C'est pas pour rien. Voilà. Il se trouve que là, cette année, on a été contacté par un autre collectif d'artistes qui s'appelle Les Forces Majeures. Et Force Majeure, c'est un orchestre symphonique.
27 membres. Hein.
Exactement. C'est Raphaël Merlin, qui est un des grands violoncellistes français, qui était au Quatuor Ébène auparavant, qui crée cet ensemble. Un ensemble qui se déplace effectivement uniquement à vélo. Ils font des concerts à bicyclette, ils font des tournées de concerts à bicyclette. Ils jouent du répertoire, des musiques de répertoire, des symphonies. Voilà, c'est très varié. Il y a à la fois un côté évidemment pointu parce qu'on aborde des répertoires exigeants et en même temps grand public parce qu'on peut aborder des œuvres aussi qui touchent tout le monde, très connues, etc. Ils ont un aspect très spontané dans leur démarche, puisqu'ils sont avec leur vélo, ils sont en autonomie totale, ils ont les instruments, ils ont tout est sur les vélos. Ils ont quand même des réparateurs vélos avec eux, ils ont les régisseurs, enfin c'est,
ouais, j'imagine,
c'est une usine à gaz, c'est fantastique. Et ils se déplacent, ils arrivent en short, voilà, ils sortent les instruments, et parfois à peine prennent-ils le temps de se changer, ils jouent, quoi. Voilà, et donc, ils nous ont contactés il y a de ça déjà un peu plus d'un an, en disant... On a l'ambition de monter un Paris-Roubaix. On se connaît.
Donc sur le même trajet que le Paris-Roubaix.
Alors un peu plus long à vrai dire parce qu'il
y a les pavés aussi. Hein.
Ouais. Alors ils vont faire un peu de secteur pavé juste histoire de dire de cocher cette case et de marquer le coup. Ils vont aussi finir à Roubaix. Enfin bel et bien finir à Roubaix. Donc voilà, ils font bel et bien un Paris-Roubaix. Néanmoins, pour que ce soit vivant et évidemment essayer d'amener des gens dans leur sillage, ils vont faire un Paris-Roubaix en zigzag en fait, hein, parce qu'ils passent quand même par Compiègne, ils passent ensuite par Amiens. Enfin, ils font quand même des trucs qui sont pas tout à fait rectilignes. Et en même temps, c'est super parce que voilà, on parlait de l'idée d'amener des gens dans un sillage, d'amener de la réflexion, d'amener du grain à moudre. Faire en sorte de parler de la transition écologique et de le faire sans avoir l'impression d'être puni, mais de manière joyeuse, en partageant de la musique, en partageant le vivre ensemble, etc., ces moments-là, ça, c'est précieux. Voilà. Et on a des gens qui sont d'une souplesse d'esprit, qui sont vrais. Enfin, voilà, ils sont vraiment super. Il y a quelque chose de très militant, évidemment, très engagé. Ça veut dire que les musiciens aussi acceptent de mettre entre parenthèses d'autres projets, etc. Ils se rendent disponibles pour cette tournée. C'est significatif, évidemment. Il y a du travail pour eux à la clé de manière assez conséquente, parce que je crois que c'est un peu plus de 20 dates, hein, c'est quand même 25 dates, je crois. Mais néanmoins, ça veut dire être sur une seule thématique, ce qui est assez rare dans nos métiers. Hein. Il faut quand même avoir conscience qu'on est quand même assez souvent appelé sur des choses très variées à droite à gauche. Quoi. Voilà. Et donc là, on les accueille, ils nous ont contactés, et là, on les accueille le 30 mai. Pour une étape, une double étape en fait, puisqu'ils vont faire un Albert Arras, et à vrai dire Anzin-Saint-Aubin. Et donc nous, on va les rejoindre à Albert le matin du 30 mai. On fait les 20 km qui séparent Albert de Bapaume, la vingtaine de kilomètres. On s'arrête à Bapaume et on fait un premier concert à 14h, salle Isabelle de Hainaut. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. c'est un week-end de l'Ascension, donc on n'a pas d'excuses. On peut être là. Et le soir, on reprend les vélos. Et le soir, on est attendu à l'espace Loué Dieu à Anzin-Saint-Aubin pour un second concert avec une toute petite entrée pour la tarification payante. C'est 5 euros. C'est symbolique, mais ça nous aide évidemment à la fin à participer au montage budgétaire. Voilà.
Et ce sera à partir de 20h à Anzin-Saint-Aubin, on le précise.
Tout à fait.
Une question que je me pose, je dis, comment on fait pour attirer le public? Parce qu'ils voient passer, forcément. Ils se disent, mais comment ça se passe? Est-ce qu'ils s'arrêtent à un moment donné au bord de la route et hop, ils se mettent à jouer ou...
Alors, tout le défi là pour eux, ça a été depuis plus d'un an, ça a été de construire cette relation avec les territoires qu'ils allaient traverser pour voir quels acteurs allaient pouvoir être intéressés et pouvoir les accueillir. Il se trouve que nous, Musique en Roue Libre, on est une structure militante aussi, à plein d'égards, mais notre festival, il n'a pas lieu au mois de mai. Et en fait, on a pris ce risque de dire, ok, on fait un effort budgétaire, on extrait une date des Inouïs, on l'anticipe, ce qui nous peut aussi, quelque part, contribuer à annoncer le festival qui aura lieu toujours à la fin août et début septembre. Voilà, mais en tout cas, on avait envie d'en être. Et je pense que la plupart des acteurs qui vont les recevoir, il y a quand même la Maison de la Culture d'Amiens, le Conservatoire d'Amiens, le Palais Impérial de Compiègne, la Métropole Européenne de Lille, il y a la Communauté de Communes de Lens-Carvin, Communauté d'Aglo, pardon. Donc il y a quand même des acteurs qui mobilisent des moyens, qui ont des compétences culturelles, etc., et qui peuvent se permettre de s'engager. Et il y a aussi des acteurs plus humbles, comme nous, mais qui ne veulent pas manquer l'événement parce qu'en fait, c'est à la fois joyeux, symboliquement c'est fort. Et donc, pour répondre à ta question, ça a été un gros travail en amont de connexion de la part de cet ensemble et puis de la régie de production, notamment Robin Ducancel, qui est une personne qui a vraiment beaucoup de tempérament et beaucoup d'engagement à cet endroit de la transition écologique et de la mobilisation à l'endroit de la mobilité douce. C'est aussi quelqu'un qui a créé le réseau Arviva, qui amène de la réflexion sur la transition écologique dans la culture. Voilà.
C'est important.
Très, très, très important, en effet. Et voilà, et Robin a passé des heures et des heures en visio, en déplacement, au téléphone avec tous les territoires qui vont être traversés et tous les acteurs qui vont accueillir l'orchestre pour pouvoir faire ce lien et qu'ensuite chaque territoire et chaque acteur puisse faire ce travail de représentation auprès des publics qui sont les leurs. Pour pouvoir attirer le regard, attirer les gens.
L'orchestre, les forces majeures seront le 30 mai pour deux concerts, on le rappelle, exceptionnels, à Bapaume à 14h et à 20h à Anzin-Saint-Aubin. Et puis, ils peuvent aussi rejoindre les musiciens et les suivre peut-être, même les applaudir comme si c'était une course, sauf que ce ne sera pas vraiment une course, à vélo, sur ce Paris-Roubaix, en espérant qu'il fasse beau hein, quand même, parce que... Pour les instruments, j'imagine que c'est quand même assez important.
Alors oui, et en même temps, ils ont tout prévu parce qu'ils ont des remorques bâchées, etc. C'est vraiment exceptionnel. Hein. L'organisation de cette tournée, c'est quelque chose de vraiment, vraiment surprenant. Quoi.
Est-ce que éventuellement, tu peux nous pitcher un petit peu, est-ce qu'il y a déjà des idées pour le prochain Festival des Inouïs, quelque chose qu'on pourrait déjà annoncer en guise de mise en bouche?
Il y a deux, trois petites choses, ouais, en effet. Alors déjà, je peux parler du thème. Puisque, comme tu le sais, chaque année, en fait, on aime bien avoir un thème, une espèce de fil rouge de narration. Et donc cette année, on a envie de parler du rythme, parce que le rythme, forcément, en musique, c'est quelque chose, c'est un élément constitutif de la musique. Hein, mais en même temps, c'est quelque chose qui accompagne aussi, de manière générale, les saisons, les vies humaines, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve de manière large, de manière non fermée, une programmation. Et puis, en même temps aussi, c'est un tout petit peu... ça correspond un petit peu à notre actualité puisque on est dans notre 19e édition et donc bientôt la 20e. Et donc quand on parle de rythme, tu vois, c'est cette notion d'année en année, de cycle qui se perpétue. Voilà. Et donc pour pouvoir annoncer ce petit tournant, ce petit passage, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à cette notion de cycle aussi, quoi. Voilà. Et donc pour en dire plus, par exemple, on va accueillir. Le dimanche 7 septembre, on accueillera la première d'une forme opératique Assis et Galatée de Handel par l'ensemble Istagioni, Les Saisons, dirigé par Paolo Zanzu, qui est un grand claveciniste reconnu mondialement, qui était aussi assistant de William Christie, donc un chef d'ensemble baroque très connu, hein, et les Arts Florissants. Et donc on les accueille pour une première, en fait. On fait la première de cette forme opératique au Théâtre d'Arras ce jour-là. Il y aura aussi l'ensemble Contraste avec un spectacle vraiment grand public sur la thématique des mille et une nuits, puisqu'on parle de cycles, etc. La nuit, c'est quelque chose. On aura des musiciens qui seront originaires d'Afrique de l'Ouest. Il y aura à la fois un stage de danse africaine gratuit. Je le dis dès maintenant parce que, eh oui, à l'hôtel de Guine.
Ah, c'est une première, ça.
Ouais. Voilà. Et puis, ils seront là en cœur de ville aussi. On va les voir et les entendre un peu partout le samedi matin. On aura aussi une tournée à bicyclette, de nouveau, parce que ça fait partie du rendez-vous qu'on a envie de maintenir et de toujours, voilà, je vais pas me redire, quoi. On est vraiment engagé à cet endroit-là. Un quatuor, donc, de jeunes femmes qui s'appelle L'Euphonie des Coxigrues, avec un quatuor assez composite, assez étonnant, avec viol de gambe, violon d'amour, quinton, donc déjà deux instruments à cordes, évidemment proches du violon, mais qui s'en distinguent, et un autre violon. Au niveau des timbres et des couleurs, c'est très très beau, et un très beau travail. Je parlais de rythme, dans la notion de rythme, en fait, c'est parti d'un collectage de chants et de musique traditionnelle, et donc ça c'est le rythme de la vie humaine, originaire de Thiérache, et qui a été réexploité et remis en forme avec une écriture de pourquoi tu raccordes. Donc c'est vraiment étonnant, vraiment super, très accessible, avec des voix aussi, voilà, il y a beaucoup de poésie dedans. Ça promet de beaux moments.
C'était une interview en compagnie de Julien Lahaye, directeur artistique mais aussi en charge de la programmation, pour présenter l'événement Accordez vos vélos, qui se déroulera prochainement à partir du vendredi 30 mai 2025 à Anzin-Saint-Aubin, mais aussi ailleurs dans la région. Ce sujet a été réalisé par Boris Guyot de Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous en avez marre d'écouter des radios de merde? Alors, écoutez Radio Campus Lille sur le 106,6 MHz et sur le www.campuslille.com. Tirez la chasse!
Septembre, chaque nuit devenait une vigne où les pampres répandaient leur clarté sur la ville et là-haut, astres mûrs becquetés par les ivres oiseaux, tomatoires attendaient la vendange de l'aube. Un soir passant le long des quais déserts et sombres, en rentrant à Auteuil, j'entendis une voix qui chantait gravement, se taisant quelquefois, pour que parvint aussi sur les bords de la Seine la plainte d'autres voix limpides et lointaines. Et j'écoutais longtemps tous ces chants et ces cris qui éveillaient dans la nuit la chanson de Paris. J'ai soif, ville de France et d'Europe et du monde. Venez toutes couler dans ma gorge profonde. et le vin de ton pays est meilleur que celui qui coule sur nos bords, mais aux pampres du Nord, tous mes grains ont mûri pour cette soif terrible. Mes grappes d'hommes forts saignent dans le pressoir, tu boiras à long trait tout le sang de l'Europe, parce que tu es beau et que seul. Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers sur le quai d'où je voyais l'onde couler et dormir les Bélandres. Écoutez-moi, je suis le gosier de Paris et je boirai encore s'il me plaît l'hiver. Écoutez mes chants universels, ivrognerie. La nuit de septembre s'achevait lentement. Les feux rouges des ponts s'éteignaient dans la Seine. Les étoiles mouraient. Le jour naissait à peine. Dal magro stipendio che lui vi pagò, per strane ragioni la metà prelevò, ma tutte divise, ora le via, oh mio caro padrone, contro che scioperia. Laggiù in Finlandia si invecchia di più, la schiena si incurva, va di sempre di più. Ma tutte divise, ora le via, oh mio caro padrone, contro te scioperia. Laggiù in Finlandia è amaro morir, in mezzo al cotone tu dovrai morir.
ma tout est divisé. Ora le via, oh mio caro padrone, contro te scoperia.
Radio Campus Lille.